Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel Berama et j'ai découvert il y a 10 minutes que j'animais cette conférence. Donc je suis très heureux d'être là avec mes charmants compagnons. Donc on va commencer par Van Fakhoury, auteur jeunesse et adulte, donc avec Le Clairvoyage et j'ai un trou...
Narcogenèse,
oui. Tout ça chez La Talente,
ouais. Bien.
À sa gauche, Sir Cédric, qu'on ne présente plus, auteur de nouvelles de fantastique et plus récemment de thriller, à tendance fantastique aussi.
Thriller
tout court.
Insister dessus.
C'est ce qu'on t'a dit. À ma droite, Francis Berthelot.
Hello.
Un habitué du festival. Mm-hmm. Et à sa droite, Jean-Pierre Andrevon, vieux de la vieille, si je puis m'exprimer ainsi.
Tu vas pas finir le débat.
Je ne compte pas finir le débat, en fait. Donc, allons-y, lançons-nous.
C'est quand on fait ça que ça fait le bruit.
Ouais.
C'est bien.
Ça marche pas chez nous. C'est fantastique.
Ouais, c'est spécial.
Donc, conférence intitulée « Le fantastique, quel bonheur ». Que du bonheur, ouais. On va commencer par une petite question pour chacun de vous, une question habituelle que je m'amuse à poser à toutes les personnes que je rencontre, enfin presque. Est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience avec l'imaginaire ? Si c'était un livre, une série télé, un album, jeunesse ou autre chose, qui soit vraiment lié au fantastique, à la science-fiction, à la fantasy ?
Bah, moi, c'est les contes de fées quand j'étais petit, hein. J'en suis jamais sorti. Voilà.
Un en particulier qui vous aurait touché ou...
Ah, j'aimais bien ceux de Madame d'Aulnoy, que j'ai relu récemment d'ailleurs, qui sont beaucoup moins connus que ceux de Perrault ou de Grimm, et il y a des véritables merveilles, comme L'Oranger et l'Abeille, Serpentin Vert, qui sont des textes vraiment littéraires, représentatifs de leur époque, et avec une magie, c'est assez proche de Marivaux en même temps, enfin, et c'est féerique. Donc c'est ça un peu qui m'a marqué. Mais j'étais petit, hein. Je suis toujours d'ailleurs.
Jean-Pierre ?
Alors moi, c'est pas du fantastique vraiment, c'est vraiment de la science-fiction. C'est pour ça que j'ai commencé, je pense, à écrire la science-fiction et m'intéresser à la science-fiction avant le fantastique, même si je faisais peut-être pas très bien la différence. C'est comme je suis un vieux de la vieille, comme tu as eu l'outrecuidance de l'annoncer.
Et t'as pas fini d'entendre.
C'est dans un magazine, un hebdomadaire d'après-guerre, je parle pas de la guerre de 14 hein, quand même, qui s'appelle Cocardie. Et dans Cocardie, il y avait une bande dessinée qui était signée Marie-Jacques, un grand scénariste de l'époque, de ces années-là, qui était un ancien résistant d'ailleurs, et qui, avec un dessinateur qui s'appelait Licois, a fait une bande dessinée qui s'appelait Guerre à la Terre, qui était une espèce de, pas de parodie, mais une espèce de démarquage, bien entendu, de la guerre des mondes de Wells, mais qui, moi, j'avais 4-5 ans, là, ça m'a, j'avais ces images dans la tête, on voyait les Martiens débarquer en France, à Paris, notamment abattre la tour Eiffel avec des astronefs qui avaient des espèces d'ailes coupantes comme ça. Ils employaient comme mercenaires des Vénusiens qui étaient des espèces d'anthropoïdes à gros yeux qui se battaient avec des faux, qui étaient leur troupe de choc. Et vraiment, ça m'a. Voilà, j'ai découvert le qu'il pouvait y avoir au-delà du réalisme quotidien, un imaginaire qui était très guerrier, puisqu'on sortait de la guerre, encore une fois, mais qui m'a empli, quoi, qui m'a jamais quitté, je crois.
Merci. Anne.
Alors moi, c'est pas le fantastique non plus, c'est la SF, vraiment le premier souvenir, et c'est la télé, tournée dans les années 70, évidemment, c'est Albator, Capitaine Flamme, et surtout l'homme de l'Atlantide, qui était quand même de l'imaginaire. D'ailleurs, depuis, j'adore les slips jaunes, c'est une véritable obsession. Mais voilà, donc vraiment, le premier souvenir, c'était ça, et puis c'était les maîtres du temps. Aussi, que j'ai dû voir vers 4 ans la première fois, à la suite de mes sœurs, et je n'ai pas compris grand-chose, j'ai compris un peu après. Et en littérature, vraiment, celui qui m'a marqué, c'est pas mon premier souvenir, celui qui m'a marqué, hormis les contes, non, mais je crois que tous étaient, c'est Alice au Pays des Merveilles.
Cédric ?
Alors, quant à moi, alors c'est vrai que j'avais un petit peu oublié, mais Les Maîtres du Temps, effectivement, est un souvenir de petite enfance. Mais je pense, en étant très honnête, que le premier souvenir que j'ai de littérature, de l'imaginaire, j'apprenais à peine à lire, donc ça devait être... c'est-à-dire quoi, cette CP, c'est 5 ans. C'était oui, au Pays des Jouets, qui est de la fantaisie, à pure et dure. Sincèrement, le mythe tombe, c'est cool. Et à partir de là, effectivement, je pense que toutes mes lectures d'enfant étaient orientées imaginaire. Et puis assez rapidement, sont venus, oui, les dessins animés japonais, les Albator, je suis la génération Albator. Il y avait Sangoku un petit peu avant. Et les bandes dessinées ont pris le relais. Et j'ai toujours lu dévorer les collections, donc c'était les bibliothèques roses, puis après vertes, qui étaient toutes, et puis avant de passer au Gomorrah, mais c'était tout le temps de la littérature d'imaginaire. Mes premiers souvenirs, c'est oui. Je m'en souviens très précisément parce que j'étais à l'hôpital quand je l'ai lu.
Oui. Ok.
C'est dit.
Ça figurera sur ta biographie très prochainement, je pense.
Non, je crains maintenant.
On va continuer un peu dans votre passé. Quels sont vos grands maîtres du fantastique en matière littéraire,
Cédric? Alors moi, du coup, dans la lignée de tout ça, le premier un peu choc littéraire que j'ai eu, c'est quand j'avais 10 ans, j'étais en 6e. J'ai lu d'abord Bilbo le Hobbit, suivi du Seigneur des Anneaux. Et à l'époque, ça m'a passé assez rapidement en fin de compte, mais Tolkien a été la première rencontre de ma vie avec un univers qui me parlait et surtout qui m'a donné envie moi-même de créer quelque chose, d'inventer mes propres histoires. Je pense que Tolkien a été le premier déclic qui n'a pas duré finalement très longtemps, car assez vite après ça, donc un an, deux ans après, j'ai découvert Stephen King quand j'étais au collège. Ça a choqué absolument mes professeurs et mes parents, mais je me suis mis à dévorer tous les bouquins de Stephen King, et je pense que il est resté pour moi un des maîtres absolus. Et lui, par contre, autant Tolkien m'a donné envie d'écrire des histoires qui étaient juste pompées sur ce qu'il avait, avec des elfes et des dragons, sauf ce que j'avais lu précédemment de lui, autant Stephen King m'a, en plus de me montrer des techniques littéraires et de... En gros, la lecture adolescent de un peu torturé que j'étais à l'époque dans l'Aveyron profond en province où il ne se passait pas grand-chose, outre le fait que ça me disait que j'avais le droit d'aimer ce genre d'histoire, qu'on pouvait, que c'était bien, puisque c'était en kiosque. D'autre part, je pense que King est vraiment l'auteur qui m'a fait le premier me dire « moi aussi j'ai envie de faire ça un jour comme métier ». Donc c'est doublement important pour moi. Et je pense que oui, avant je ne me rendais pas compte qu'il était possible de devenir écrivain réellement, de gagner sa vie avec, d'avoir du succès, puisque je ne me rendais pas compte que les auteurs que je lisais étaient encore en vie finalement.
Francis ?
Alors c'est assez drôle parce que je ne m'étais jamais posé cette question et la réponse vient de m'apparaître de façon très évidente. Le premier texte fantastique qui m'a marqué, et je pense que c'est vraiment pas un hasard, c'est le Horla de Maupassant, qui est un texte justement à la frontière entre la folie et la réalité. Et je n'avais jamais réfléchi jusqu'à la minute présente à l'influence que ça avait pu avoir sur moi, mais je pense que de façon tout à fait inconsciente, ça m'a profondément imprégné. Et ça se voit beaucoup dans mes derniers romans, justement, où je joue constamment sur cette frontière entre la folie, le monde réel. Le dernier sorti, Carnaval sans roi, se passe quand même dans un hôpital psychiatrique et la moitié du temps dans le cerveau d'un fou. Donc c'est certainement pas un hasard. Et l'autre référence qui me vient, mais celle-là, alors là, je la connais depuis toujours, c'est Tonton Boris, hein, Boris Vian, dont je me suis toujours senti très proche. La seule différence, c'est que lui faisait du jazz, moi je fais pas du jazz, mais je fais de la musique aussi. Mais il adorait le Kalevala comme moi. Je me reconnais dans sa façon de... peut-être de décrire le réel, et puis tout à coup, sans explication comme ça, parce que c'est l'envie de l'auteur, il y a quelque chose qui dérape, et puis c'est tout à fait naturel, on n'a pas à justifier ce qui est a priori la définition du merveilleux, mais on ne casera jamais ni ce que, qu'écrit Boris Vian, ni ce que j'écris dans le merveilleux. Mais on pratique, lui comme moi, cette évidence de la chose surnaturel qui se produit comme si ça allait de soi. Donc je pense que c'est ça vraiment, ce sont les deux auteurs qui m'ont le plus marqué. Mais ce ne sont pas eux qui m'ont donné envie d'écrire. L'envie d'écrire est venue par la littérature générale. Quand j'ai pris conscience en lisant des romans du 19e siècle que ce monsieur qui avait écrit ce livre... qui m'apportait tellement, ce monsieur était mort. Et je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça, je veux écrire des livres qui apporteront des choses à des gens qui naîtront après ma mort. Et ça, ça a été vraiment une révélation qui s'est faite pour moi quand j'avais à peu près 12 ans. Et je n'ai jamais changé d'optique depuis. Mais ce n'était pas lié au fantastique.
Merci. Jean-Pierre ?
C'est un peu compliqué, c'est vrai que... Les influences se mélangent dans la mémoire. C'est vrai que j'ai eu aussi des influences classiques, le Horla, bien sûr, Erckmann, Chatrian, mais aujourd'hui, je suis incapable de dire si je les ai lus à 15 ans ou à 25 ans, j'en sais rien. Par contre, continuant sur la science-fiction, après, disons, les années 40, qui était celle de Guerre à la Terre, de Marie-Jacques Hélicois, donc bande dessinée, il y a eu l'apparition des collections du Fleuve Noir. En 1951, la collection Anticipation du Fleuve Noir a été créée. Et là, j'en ai lu beaucoup. Je les ai tous lus, hein, Richard Bessières, Jimmy Gueux, Jean-Gaston Vandel, etc. Qui m'a effectivement très, très, très marqué, parce que j'étais quelqu'un de pas très cultivé à l'époque. Je ne veux pas dire que je suis devenu maintenant. Et puis, parallèlement à cette collection Anticipation, s'est créée un peu plus tard, en 1954, la collection Angoisse. Et là, j'ai eu un choc, vraiment. Il y a eu un certain nombre d'auteurs, dont le plus connu, celui qui reste le plus connu, est André Roëlan, qui écrivait sous le pseudonyme de Kursteiner. Et puis un autre qui s'appelait Marc Agapi, aussi, un vieux monsieur malicieux, qui écrivait des choses absolument horribles. Et là, il y a eu un choc, il y a eu un déclic pour moi. Parce qu'il y avait une simplicité d'écriture, il y avait le format du Fleuve Noir, qui exigeait des romans courts, il y avait des intrigues très très astucieuses sur des sujets, bien sûr les morts vivants, bien sûr les fantômes, et d'autres beaucoup plus marginales, sur qui touchaient à la perversité, aux tortures, aux enlèvements, aux catacombes, enfin toutes ces choses-là. Et là, ça m'a vraiment marqué. Et j'ai eu, moi, ce qui m'a donné l'envie d'écrire, j'avais une quinzaine d'années donc à l'époque, c'était vraiment ces romans de la collection Angoisse. Je me suis dit, mais finalement, c'est très efficace, ça me fait peur, et puis en plus c'est facile. Je pensais, dans mon innocence de la jeunesse, que c'était facile, alors que c'est pas facile du tout d'écrire simple. Donc je peux dire que ça a été mon influence principale. Mais après est venue la lecture de fiction, le magazine Fiction, dirigé par Alain Doré-Mieux, qui publiait beaucoup de nouvelles de Richard Matheson, qui là aussi, c'était la simplicité aussi, il y a ces petites histoires, rappelons du journal d'un monstre, hein, où il y a un espèce de mutant enfermé dans une cale par ses parents, qui se raconte avec son orthographe, avec son langage, et qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Et puis troisième étape, et là je rejoins Cédric, c'est évidemment Stephen King. Et là je suis très content d'en parler, parce que Stephen King a une image plutôt déplorable chez les lecteurs qui spiquent de littérature, qui disent mais c'est facile, mais c'est du commercial. Or, lire du Stephen King, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Stephen King, c'est, si on veut, les mêmes thèmes que Richard Matheson, mais alors que lui faisait des petites nouvelles très simples en 15 pages, Stephen King fait des romans de 500, de 800, de 1000 pages, admirablement écrits. Donc voilà, il y a tout un... J'ai pas une influence primordiale, mais il y a tout un long cheminement comme ça, qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, quoi, avec ce plaisir de lecture qui est toujours constant.
Si je peux rajouter quelque chose, au moulin Stephen King, j'ai été très marqué par le premier Stephen King que j'ai lu, qui est Carrie, à cause de la multiplicité des modes narratifs qu'il utilise. Et ça, ça a été pour moi une grande révélation, le fait qu'on pouvait raconter une histoire en faisant
dialogue entre personnages, en faisant récits hétérodiégétiques, en mettant des fragments de journal intimes, en mettant des coupures de presse, en mélangeant tout ça. Et littérairement, justement, je trouve que c'est un exercice très très fort.
Merci.
J'ai apporté ma petite pierre à l'édifice Stephen King. Moi, ce qui m'a toujours impressionné chez King, c'est sa faculté à jouer avec nos peurs les plus basiques et les plus profondes. Voilà ce que je me souviens particulièrement de ça et de Cimetière qui continue à m'angoisser dans certaines situations. Sur les influences fantastiques, à l'origine, j'avais des goûts assez classiques. Je me souviens très très bien de ma lecture de La Morte amoureuse vers 12-13 ans, je pense peut-être 14, peut-être plus 14, parce que c'était juste après la peau de chagrin qui avait été un calvaire absolu. Pour moi, qu'on a été obligé d'étudier en classe, j'ai deux cauchemars en littérature, c'est les souffrances du jeune Werther et la peau de chagrin. Et du coup, La Morte amoureuse avait été une véritable libération. Et La Vénus d'Île aussi, de Prosper Mérimée, qui m'avait marqué.
Et moi après, aussi. Moi aussi.
Ouais, vraiment, vraiment. Parce que ça rejoint le conte en plus, la statue qui étouffe son amoureux. On est en plein dans le conte avec. Ouais. Et puis du coup, je rapprochais ça de Cocteau avec La Belle et la Bête et les statues, qui avait été un film qui m'avait impressionné quand j'étais petite. Enfin, voilà, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué. Et puis après, je suis passée très vite à Stephen King. Désolée, c'est pas très original, mais voilà, c'est... Là, comme ça, c'est un peu quelque chose qui vient.
Lewis Carroll, peut-être.
Oui, Lewis Carroll, mais c'est la fantaisie, du fantastique. Oui, mais Lewis Carroll, évidemment. Mais Lewis Carroll, ça a été essentiel pour moi, puisque c'est le livre qui m'a fait découvrir que j'allais mourir. Donc, évidemment, c'est un petit peu marquant. Et je l'ai lu beaucoup plus jeune. Ça a été un déclencheur, Lewis Carroll. C'est pas la même chose. Ça n'a pas été une influence, ça a vraiment été un déclencheur et sur les mondes imaginaires, et sur la mort, sur le fait qu'il ne fallait pas grandir avec la scène d'Humpty Dumpty, quel âge as-tu ? 7 ans et demi, il fallait t'arrêter à 7 ans. Moi, j'avais 7 ans et demi quand j'ai lu cette scène. Ça a été abominable, je m'en souviens très très bien. Et puis ce que j'aimais aussi, ce qui m'a marqué chez Lewis Carroll, c'est cette petite musique de scie qu'on entend aussi chez Verlaine d'ailleurs, derrière, en fait, il y a quelque chose de très grinçant, et c'est là où j'ai commencé vraiment à rentrer, au même moment, Verlaine et Lewis Carroll, dans la littérature, alors qu'avant je disais beaucoup de bibliothèques roses et de contes, parce que je voulais découvrir ce qu'était cette petite musique. Voilà, et ce que j'aime en fantastique, je crois, c'est ça, c'est cette petite musique que King traduit très bien, en fait, avec ce côté très, très, très grinçant qu'on sent toujours dans les... je pense à Cimetière, par exemple, qui est quand même un livre où il ne se passe rien de fantastique jusqu'au dernier tiers, et où on entend toujours, voilà, il y a toujours quelque chose qui pèse, quelque chose de... Voilà, c'est ce bruit de scie derrière.
Vous avez tous commencé à définir un peu la chose, mais pour vous, c'est quoi le fantastique, vraiment ?
Cédric, une question ? Non, pour moi, le fantastique... C'est simplement une façon légèrement différente de voir la réalité quotidienne. C'est comme ça que moi je le vois, comme ça que j'exprime quand j'écris du fantastique. Et c'est quelque chose que je répète tout le temps, mais à mes yeux, en fait, le fantastique est par essence une approche littéraire, quelles que soient les formes que cela puisse prendre, les thématiques qu'on choisit. En fait, le fantastique parle de notre ego. C'est une forme d'expression totalement psychanalytique, et après on peut la décliner comme on veut, mais finalement, au final, c'est une littérature totalement égoïste qui va parler de nos peurs, de nos angoisses, de l'horreur. Voilà, c'est la définition du ultime et du fantastique, effectivement. Alors que, par exemple, quand on évoquait la fantaisie, par essence, parle de notre place dans l'ordre des choses vis-à-vis des forces de la nature, de la surnature, depuis l'Iliade et l'Odyssée dans notre culture. La fantaisie, c'est ça. C'est le cheminement d'un être humain confronté à des forces qui dépassent les dieux, la nature, et comment il se positionne par rapport à ça. Alors que le troisième grand genre, qui est donc la science-fiction, a par vocation le fait de parler de la société dans son ensemble, comment on la gère, comment les choix que l'on fait, que ce soit politique, écologique, qu'est-ce qu'on devient ensemble. Voilà, donc pour moi, le fantastique, c'est vraiment le. Cette fameuse musique aussi intérieure de... et ce regard, notre reflet dans le miroir, on est toujours aux mêmes images, mais qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans, vis-à-vis de nos angoisses, comment on perçoit, comment on se voit, comment on s'imagine que les autres nous voient, et toutes ces questions qu'on se pose. Donc très, très psychanalytique. C'est comme ça que moi je le vois, donc, voilà, ça n'engage que moi, et c'est comme ça que j'essaye de l'exprimer et de le travailler dans mes propres histoires, pour travailler définitivement des métaphores et des symboles plus que de, plus qu'une recherche d'un réalisme de plus.
On est un peu loin de oui-oui, là.
Ah, pas comme ça. Oups. Si on creuse un peu.
Francis ?
Alors, moi, je dirais deux choses sur le fantastique, et puis une troisième après. La première, c'est je vais revenir tout simplement à Todorov et à la distinction de base, à mon avis, entre le merveilleux, le fantastique et la science-fiction, qui est la suivante. Face à un événement qui dépasse la réalité quotidienne, donc un événement surnaturel, le merveilleux explique ça par l'action des dieux ou des magiciens. La science-fiction donne une explication scientifique et le fantastique reste dans l'hésitation. Est-ce que ça a vraiment eu lieu ou est-ce que on a seulement cru que ça avait lieu. Donc il y a toute cette branche du fantastique qui se situe dans l'univers des drogues, dans l'univers des cauchemars, dans l'univers de la folie, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le fantastique joue beaucoup, à mon avis, sur les zones d'ombre du christianisme, et en particulier tout ce qui touche à la mort. D'où toutes les figures du vampire, du mort-vivant, du fantôme, tous ces êtres qui sont « undead », comme disent les anglo-saxons, ce qui est un terme que j'aime bien finalement, on n'a pas vraiment d'équivalent. Un mort-vivant, c'est pas tout à fait « undead ». Et « non-mort », ça ne dit pas exactement la même chose. Et ça se loge justement dans... ce qu'on ne sait pas finalement de la mort, de ce qu'est la mort, de ce qu'elle n'est pas. Bon, c'est sûr qu'il y a l'enfer, le paradis, machin, mais tout ça est quand même très sujet à caution. Il était déjà largement au Moyen-Âge, à la Renaissance, on voyait les danses macabres avec la mort en forme de squelette avec sa faux. Bon, c'est pas l'imagerie vraiment orthodoxe. N'empêche qu'elle était là. Donc il y a cet aspect-là dans le fantastique. Et la troisième chose que je veux dire, c'est que pour ma part, je n'ai quasiment jamais écrit de fantastique. Ce que j'écris actuellement, justement, comme je ne me situe pas du tout dans le questionnement est-ce que ça a lieu, est-ce que ça n'a pas lieu, j'appellerais ça plutôt du merveilleux noir que du fantastique, ou de la urban dark fantasy. Quelque chose comme ça.
Anne ?
Je ne vais pas revenir sur ce que mes camarades m'ont dit de très intelligent. D'accord. Quasiment sur tout. Spécialement sur Todorov, évidemment, mais bon, étant prof de français, voilà, un petit peu logique. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Narcogenèse, en fait, avec deux enquêtes, une enquête fantastique, parce que Narcogenèse est un thriller fantastique, et j'insiste sur fantastique parce que j'ai le droit. Et du coup, il y a deux enquêtes, l'enquête fantastique, l'enquête policière. Et effectivement, normalement, à la fin, on peut expliquer l'intrigue de deux façons. Soit effectivement sous forme d'un rêve, alors pas d'un rêve en soi, il y a le monde des rêves, mais sous forme d'une hallucination, ou concrètement, grâce à l'enquête policière, les deux se mêlent et il n'y a pas de réponse. Maintenant, je voudrais rajouter quelqu'un à ma liste que j'ai oublié, je me demande comment, c'est Neil Gaiman, à ma liste de tout à l'heure. Et justement, pour moi, le fantastique, c'est une porte. Certains font le choix de l'entrouvrir, et là, on est dans la définition de Todorov, très 19e. Voilà. D'autres, de l'ouvrir en grand, et là, on est dans le fantastique actuel, 20e, où effectivement, et spécialement dans l'urban fantasy, où les créatures fantastiques vivent, ou non vivent, parmi nous, mais pour moi ça reste vraiment cette porte qu'on choisit d'entrouvrir, de pousser pour passer de l'autre côté.
D'ailleurs, en ce moment, il y a cette série qui passe, qui est excellente d'ailleurs, qui s'appelle American Horror Story, où les fantômes, à ma grande surprise, il m'a fallu un moment, quelques épisodes pour m'en rendre compte, ils ne sont pas immatériels. Ils touchent les objets, ils les prennent, ils touchent les gens, ils ont une consistance réelle. Et ça, c'est tout à fait nouveau dans la preuve du fantôme qui, jusqu'à présent...
Il y a ça aussi dans les suites, non? À un moment, le personnage du fantôme, il y a un loup-garou, un vampire, il y a une fantôme, je crois, qui arrive au bout d'un moment à se matérialiser.
Dans Misfits?
Oui, non. Non, c'est pas dans Misfits, c'est dans la série anglaise avec quatre personnages. Comment? Oui, on va retrouver le nom. Et quatre personnes. Un loup-garou, un vampire. Being human. Voilà, c'est ça.
Oui.
Il me semble qu'il y a aussi.
Oui, c'est ça, effectivement.
Elle arrive
petit à petit. Ouais, c'est vrai, c'est un fantôme. Mais elle souffre énormément de ne pas pouvoir agir. Et
c'est plus classique comme idée. Oui. C'est dans pareil sur des fantômes où on apprend petit à petit à. Oui,
oui. Jean-Pierre ?
Je ne sais plus quelle est la question, mais bon.
Votre définition du fantastique.
Non, alors moi, il y a quelqu'un que j'ai oublié quand même. C'est Edgar Poe. Ah là là. Je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier, parce que lui, il a tout inventé, je pense. Et le fantastique, c'est vrai, c'est la manière de lutter contre la mort ou d'éviter la mort. Edgar Poe l'a merveilleusement exprimé dans l'enterrement prématuré, l'homme qui se fait enterrer pour essayer de voir s'il peut échapper à la mort, ou le puits, la pendule, enfin, toute cette, la chute de la maison Usher, tout ça. Donc, pour moi, le fantastique, c'est vraiment... Une lutte contre la mort ou le moyen de la détourner ou le moyen de s'en échapper, mais ce qui n'est pas forcément un bien-être, ce qui n'est pas forcément heureux. Il n'y a qu'à voir toutes ces histoires de morts-vivants ou de fantômes, de cadavres pourrissants qui sortent de terre. On n'a pas envie de survivre en étant un cadavre pourrissant qui sort de terre. Donc, c'est un peu pour ça que quand j'ai débuté dans l'écriture ou quand j'essayais de théoriser un petit peu plus toutes ces questions, quelle est la différence entre le fantastique et la science-fiction ? Bon, j'ai pu être péremptoire, disant le fantastique c'est l'individuel, la science-fiction c'est le collectif, le fantastique c'est Freud, la science-fiction c'est Marx, etc. Maintenant, j'ai un petit peu mis de l'eau dans mon vin, ou je sais pas, ou de la crème dans mon café, parce que les choses s'interpénètrent beaucoup, se mélangent, se mêlent. Stephen King en est un exemple, d'ailleurs. La plupart de ses bouquins, on ne sait pas trop si c'est de la science-fiction, si c'est du fantastique. Ça se mêle à l'horreur, c'est moulé dans un quotidien très, très présent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ne sont pas simples, quoi. Mais je crois que ça vient quand même au plus profond de notre enfance, des peurs qu'on a pu avoir, être seul dans une pièce noire avec la maman qui s'éloignait, du bruit qu'on entend dans le couloir, du monstre qui est dans le placard ou qui est caché sous le lit, enfin, tout ce qui a pu nous faire peur, et puis qu'on a oublié ou qu'on a cru oublier en vieillissant, à l'adolescence, et puis après qu'on retrouve parce qu'il y a d'autres peurs qui viennent se surposer à ça, la guerre, la maladie, le cancer, la souffrance, la vieillesse, tout ce que vous voulez. Donc voilà, le fantastique, pour moi, c'est ça, c'est un mélange de tout ce qui vient de très loin, de l'aube de notre conscience, et puis d'une surconscience qui vient après, de tout ce qui peut nous arriver, mais réellement, avec fatalement, la mort au bout. Je crois que la mort est là, de toute façon, du début à la fin, on ne peut pas y échapper. Le fantastique, c'est ça, en fait, c'est la confrontation permanente avec la mort.
Donc, contrairement au titre, au nom de cette conférence, il ne peut pas y avoir de bonheur dans le fantastique,
hein. Là, ça, on irait dans le merveilleux qui a été évoqué par plusieurs de mes confrères. Mais moi, le merveilleux, je ne sais pas trop ce que c'est, quoi. C'est vrai que contrairement à vous, Alice au pays des merveilles, alors effectivement, je ne l'ai pas lu quand j'étais gosse, je l'ai lu beaucoup plus tard. J'ai trouvé ça sans intérêt, ça m'a profondément ennuyé. C'est un conte verbal qui a été mis en forme sans pied ni tête. Peter Pan, pareil, je trouve que c'est très mal écrit, je m'excuse de... Voilà, peut-être que ça peut heurter certains d'entre vous. Donc, alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est illisible, oui.
Oui, donc, c'est lisant, c'est illisible parce qu'on perd vraiment les clés.
Oui, oui. Donc, le merveilleux, j'ai un petit peu de mal à le concrétiser. D'abord, j'en ai jamais écrit. On me reproche souvent, mais en revanche, pourquoi tes histoires sont aussi pessimistes, sont aussi sinistres. J'ai tendance à répondre parce que la vie l'est, malheureusement. Donc, voilà.
Moi, je crois qu'il y a un bonheur quand même, mais c'est un bonheur cynique. Là, quand même, dans toutes les histoires de vampires, dans toutes les histoires de fantômes,
qui bascule facilement vers la terreur, etc., on a quand même une jouissance méchante.
Ah, mais c'est différent, ça, bien sûr. Voilà, tout à fait. Il y a une jouissance de l'écriture. Plus on écrit des choses horribles, en fait, plus on est heureux. Parce que quand, si on écrit, c'est qu'on est vivant quand même, c'est qu'on a la force d'écrire, de passer des heures dans sa feuille de papier, sur l'ordinateur, et de dire, mais qu'est-ce que je vais raconter pour passionner, pour effrayer, pour faire peur au lecteur. Bien sûr, ça c'est une chose.
Oui, mais je disais pas ça seulement pour le créateur, c'est aussi en tant que lecteur ou en tant que spectateur.
Bon, moi, je m'éclate
devant les séries télé, enfin, American Horror Show, je m'éclate, Miss Fitch aussi, enfin, c'est bonheur. Quoi.
Donc bonheur pour l'auteur, pour ceux qui lisent ou vous regardent, mais pour les protagonistes, c'est...
Ah non, ça, ils en prennent plein la gueule. Mais bon, ils n'avaient qu'à pas y être. Non, mais franchement, il y a une question quand même, faut quand même être raisonnable. Comment peut-on, dans un film... d'épouvante, laisser une femme toute seule la nuit dans une maison avec des fenêtres ouvertes et des rideaux. C'est pas possible.
Cédric ?
En fait, ça m'évoque plein de choses parce qu'on a abordé plusieurs sujets finalement assez différents, mais j'ai l'impression que de toute manière, par rapport à ce plaisir-là, non seulement le fantastique peut tout à fait être plein d'espoir et enfin, de bonheur, je ne sais pas, mais en tout cas lumineux et nous porter vers l'avant. Y compris déjà dès les classiques, je pense à Théophile Gautier et Spirit notamment, en fait, où il est pour que je dévore tout ce qu'il écrivait, tout ce qu'il a écrit. Et je trouve qu'il y a une lumière derrière qui est d'un romantisme qui est incroyable. D'autre part, ce fameux plaisir de partage, parce qu'on en revient quand même à ça, c'est réussir à provoquer le plaisir, l'excitation chez la personne qui écoute hein, ou qui lit. Et on en revient à Stephen King et au don ou à l'envie de raconter l'histoire autour du feu à ses amis. Et souvent, l'histoire qui nous vient, c'est une histoire à faire peur parce que ça marche. Mais c'est le plaisir de se faire peur en sachant que ça n'existe pas, de se projeter dans de faire mourir des protagonistes qui ne sont pas nous. Et d'autre part, je voulais en venir quelque part et j'ai totalement oublié du coup, au final. Quelle était la question ?
Quelle était la question ?
La question, c'était la question du bonheur.
Oui, du bonheur. Non, oui, mais c'est. Ceci dit, je pense que. C'est une littérature qui fonctionne au plaisir et au bonheur. On n'écrit pas ça pour se torturer du tout. Alors on aime se faire peur, mais on le fait parce qu'on aime ça. C'est pas du tout dépressif ou réaliste, comme je disais tout à l'heure, ou didactique. Sinon, on appelle ça une religion, quoi. Quand on veut expliquer des choses simples aux gens.
Ce serait même plutôt un peu cathartique sur les bords. Enfin, c'est une façon d'exorciser joyeusement nos démons en les mettant sur le papier.
J'allais parler de la catharsis, mais restez que ça. Merci Francis. Après tout ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il me restait la catharsis et le plaisir d'avoir peur comme quand on est petit et qu'on joue à cache-cache et qu'on se raconte des histoires qui font peur ou qu'on éteint la lumière. Voilà, on est dans le même plaisir. Et je n'ai pas grand-chose à ajouter. Parce que
tout ça est... Moi, j'ai encore une grossièreté à ajouter. C'est toujours sur la dame qui est toute seule, terrifiée dans son film et qui va d'une pièce à l'autre. Et à un moment, je lui dis, mais enfin, tu peux pas allumer, connasse. Ouais. Ben non, elle allume pas. Elle reste dans le noir.
Non, non, elle va dans le grenier. D'ailleurs, dans un endroit haut et fermé. Il n'y a pas d'issue, en général.
Deux, ils font deux groupes d'hommes.
Voilà.
Mais si, je sais où je voulais en venir. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Francis, sur ta difficulté à définir ce que tu fais. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important à comprendre dans ce genre de sujet, c'est que la littérature, et donc en parlant même du fantastique, mais c'est au sens large, tout se métisse depuis une cinquantaine d'années maintenant, tous les genres se mélangent, expérimentent des choses, des ponts sont faits entre les genres littéraires qui au départ étaient indégoulonnables.
Je ne sais pas si ça fait si longtemps que ça. Tu fais remonter ça à 5 ans ?
Alors, moi, oui, pourquoi ? Alors, les premiers frémissants, pourquoi ? Parce que, alors, c'est pareil, c'est une analyse tout à fait personnelle, mais jadis, il y avait la tradition d'abord orale, ensuite l'écriture pour une élite, ou dans les églises, ou enfin, les vitraux pour raconter les histoires, puis l'époque romanesque, où le modèle de référence principal, puisqu'ils n'avaient que ça, culturellement, comme divertissement, c'était la forme romanesque. De Flaubert, et voilà. Et aujourd'hui, avec l'invention de l'audiovisuel, de la télévision, en fait, d'abord de la radio, de la musique qui s'est démocratisée, qu'on écoute chez soi au début, maintenant qui est omniprésente dans notre quotidien, dès l'instant où on se réveille avec la radio, les séries télé que tu évoquais. Déjà, ces médias-là ont apporté une nouvelle technique narrative.
Si je peux, on a mis des effets spéciaux, en fait.
Mais au-delà de ça, les frontières entre les genres sont devenues perméables, et il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de définir toutes les œuvres, y compris la littérature générale, de la rentrée littéraire insipide, qui écrivent souvent des auteurs qui écrivent des histoires de fantastique, sans le dire, on s'est considéré comme de la blanche. Mais c'est à tous les niveaux, je pense. Et dans le fantastique, on n'écrit plus aujourd'hui du fantastique comme on l'écrivait à l'époque de Maupassant.
Oui, mais je ne ferais pas remonter ça à il y a 50 ans. J'ai l'impression que c'est un phénomène plus récent.
Ouais.
Je dirais 20-30 ans peut-être. Il a été nommé, enfin pour moi, pour la première fois par Francis Valéry quand il a parlé de l'esthétique de la fusion, ce qui est quand même très récent. Alors évidemment, bon, il y a eu des signes avant-coureurs qui ont précédé le moment où on a constaté la chose, on l'a nommé effectivement. Donc,
oui, puis d'un point de vue littéraire, il y a un moment où le fantastique et le surréalisme...
Oui, il y a eu ça aussi,
voilà,
oui.
Je pense à Dorévian, dont tu parlais tout
oui,
à l'heure.
Oui, tout à fait.
Pas vraiment surréaliste, pas vraiment un auteur fantastique non plus, effectivement.
Oui, tout à fait.
Ta définition était très bonne. Mais même le surréalisme et le fantastique ont quand même bien flirté l'un avec l'autre. Et voilà, c'est pas que je mettrais ça...
Mais déjà, t'es Edgar Poe, hein, parce que concrètement, Edgar Poe, donc on l'a dit, a œuvré dans le fantastique, dans la nouvelle fantastique, de manière absolument géniale. C'était pas le premier. En revanche, on a déterminé la naissance de ce qu'on appelle le roman policier à la publication de la nouvelle Double assassinat dans la rue Morgue de Poe. Donc c'était déjà deux genres. C'est pour ça que le métissage, pour moi, il a commencé quand même progressivement depuis plus longtemps qu'on l'imagine, mais il s'est accéléré avec les nouvelles techniques et surtout la mondialisation et les cultures qui se rencontrent, qui n'étaient pas forcément le cas auparavant.
De toute façon, les genres nouveaux émergent toujours par un pas de côté à partir de quelque chose d'antérieur. Enfin, je reprends l'exemple du conte de fées et de Madame d'Aulnoy. Quand on lit ces contes, ce sont vraiment des récits d'amour courtoise galante à la Marivaux. Enfin, c'est vraiment très proche. Bon, il y a des fées, il y a du surnaturel. Mais fondamentalement, c'est quand même du conte amoureux. Mais bon, à cette époque-là, c'est devenu le conte de fées qui a fait fureur. Mais les badinages des princes et des bergères dans les contes, c'est vraiment du Marivaux, complètement.
Est-ce que c'est pas surtout parce que les schémas humains qui nous intéressent en plus n'ont pas changé depuis...
Ah ben ça c'est le débat qu'on va avoir tout à l'heure.
Sur le renouveau de la bergère ?
Non, sur les princes et les princesses.
Les archétypes.
Ah oui.
Francis, Jean-Pierre, vous avez abordé plusieurs genres au cours de votre carrière. Avez-vous une façon vraiment différente d'appréhender le fantastique ?
Je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus. J'ai commencé à écrire du fantastique à peu près, disons professionnellement, hein, à peu près en même temps que de la science-fiction. Là, je parlais tout à l'heure de ces deux collections du Fleuve Noir, l'Anticipation et Angoisse, qui m'ont tellement impressionné quand j'étais adolescent. Et j'ai effectivement, parmi mes tout premiers écrits, à part quelques nouvelles, j'ai commencé à écrire des romans de science-fiction dans la collection Anticipation, sous le pseudonyme d'Alphonse Brux à l'époque, et des romans d'angoisse dans la collection Angoisse. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? D'une part, c'est vrai que je traçais une barrière assez nette entre les deux genres, mais parce que les collections le voulaient, bien entendu. Il fallait qu'il y ait du scientifique, des space opéra, du time opéra, des extraterrestres, pour ce qui était de la science-fiction chez Anticipation. Et puis une horreur un peu sournoise, mais qui restait très quotidienne, parce qu'il y avait ça se mêlait déjà souvent aux policiers, d'ailleurs, dans la collection Angoisse. Il y avait beaucoup de faux fantastiques avec les personnes qui pénètrent nuitamment dans un château qu'on croit hanté, mais en réalité, les feux des morts sont pas des vrais morts, etc. Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est des histoires. Et les histoires qu'on raconte, on se les raconte à soi, d'abord pour les communiquer à ses futurs lecteurs. Donc quel meilleur moyen d'accrocher un lecteur, d'accrocher ces gens qu'on ne connaît pas en général, mais qui liront vos livres après, c'est d'inventer des ingrédients qui les prennent aux tripes, quoi, qui les poussent à un chapitre fini, à aller dans un autre chapitre. Et là, les recettes, elles sont toujours les mêmes, quoi. Il faut qu'il y ait un personnage à qui il arrive quelque chose, il croit s'en tirer, puis non, il lui arrive quelque chose d'autre, et voilà. Alors si c'est dans la science-fiction, il est dans une jungle avec des monstres tous plus fantastiques les uns que les autres, là, des pieuvres, des dinosaures, tout ça, et puis il tombe dans des gouffres, et puis il s'en sort, et puis il tombe d'une cascade, et puis il trouve une branche à quoi s'accrocher, puis voilà. Et le fantastique, c'est pareil, il est dans un château, il fait noir, il y a un orage qui gronde, la lumière est coupée, il tombe dans la cave, il voit des yeux rouges au fond, il se saute, il passe par une autre porte. Voilà, c'est ça en fait, c'est une espèce de technique qu'on doit rendre malléable pour que ça n'ait pas l'air justement une technique, mais c'est ça en fait, raconter une histoire qui accroche le lecteur jusqu'à ce qu'il arrive à la fin du bouquin, quoi. C'est pas plus difficile que ça, quoique effectivement, si, c'est difficile.
Francis ?
Alors moi, ta question me pose un problème très réel, que je vais affronter courageusement. Mes quatre premiers romans ont été écrits dans le cadre de la SF. Il y a eu un Space Op, une Heroic Fantasy, une psycho-fiction et un Planète Opéra. Après quoi, j'ai dit, bon, maintenant, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans ce domaine, je vais passer à la littérature générale. Alors j'ai écrit les deux premiers romans de ce qui est devenu finalement un cycle de 9 romans, hein, Le rêve du démiurge, qui était réaliste, et puis au troisième est arrivé un événement surnaturel, donc ça a rebasculé dans la surnature. Et plus on avançait, jusqu'au huitième, qui est le dernier paru, Carnaval sans roi, plus on est allé loin dans le fantastique. Et le tome 9, qui n'est pas encore publié, qui est terminé d'écrire depuis 2 ans déjà, et qui va paraître, si les dieux sont bons, l'année prochaine, dans la réédition globale, en 2 gros volumes de la totalité du cycle Bélial, donc ça en 2013, si tout va bien. Le 9e tome, qui s'appelle Abîme du rêve, raconte l'histoire de l'auteur des 8 précédents, écrivain qui est menacé parce que sa boîte d'édition a été rachetée par un grand groupe et qu'on risque de mettre au pilon tout ce qu'il a écrit. Et les personnages de ces romans sortent pour soit le soutenir, soit l'enfoncer, selon la manière dont il les a traités. Je ne vous en dirai pas plus, mais quand vous le lirez, si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi, après ça, j'ai arrêté d'écrire. Et j'ai effectivement arrêté d'écrire. C'est-à-dire que l'année dernière, je n'ai plus écrit que des chansons. En faisant la musique et l'accompagnement avec GarageBand, et ayant découvert que je pouvais faire de la musique, je suis passé à la musique sans texte, et là j'écris de la musique de ballet. Donc j'ai totalement changé de cap, parce que je n'ai plus rien à dire avec des mots. J'ai encore des choses, et peut-être les mêmes, à dire avec des sons, mais je ne les dirai plus avec des mots.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose à ça?
Comment tu veux?
Je savais que ça allait jeter un froid, excusez-moi.
Peut-être une question dans le public? Oui, alors il n'y a pas de micro, donc...
Ça jette un froid parce que le principe après, il y a dire qu'on n'écrira plus jamais. Or, on a vu les suggestions, on a vu dans l'histoire de l'auteur dire, bon, pour l'instant, je n'ai plus rien à dire. Vous oubliez de dire parce que c'était, je n'ai plus rien à dire pour l'instant.
Possible.
Possible. Alors, c'est le jamais, peut-être.
J'ai pas tout à fait dit jamais, j'ai dit j'ai arrêté d'écrire. J'ai pas dit je n'écrirai plus jamais, j'ai dit j'ai arrêté d'écrire, mais il se trouve que j'écris autre chose qui est de la musique. Et que j'y prends autant de plaisir que je prenais du plaisir à écrire avec des mots quand j'ai commencé. Et que je suis loin d'avoir fait le tour de la question. J'ai des sujets de romans, mais j'ai pas envie de les écrire. J'aime mieux écrire un ballet. Ça m'amuse davantage.
Vous restez créateur.
Oui, ça a pris, et c'était pas du tout prémédité. Ça s'est fait comme ça.
la rivière a changé de... Elle a quitté son ancien lit, il y a eu un mouvement sismique et elle s'est frayée à un nouveau lit.
En même temps, ça ne m'étonne pas, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, parce que finalement, je ne sais pas, je vais parler pour moi, et donc visiblement, c'est ce que tu as vécu, mais quand on écrit, contrairement à ce que pas mal de gens peuvent s'imaginer de l'extérieur, que les auteurs ou ont des recettes, hein, ou écrivent des choses de manière commerciale pour plaire à tel moment, dans les études, je ne sais quoi, de marché, je pense que quand on est créateur, ça sort vraiment du fond de trip. Hein. Quand on écrit, c'est des choses qui sortent de notre cerveau, des choses très intimes. Et alors là, je parle encore une fois uniquement pour moi. Je ne pourrais pas écrire quelque chose que je n'ai pas envie. Je ne pourrais pas, de toute manière, dans la vie, tous les jours, je ne peux pas faire des choses qui me déplaisent. Donc c'est problématique parfois. Mais pour la création, on peut très bien avoir envie de faire quelque chose à un moment donné, y compris changer de genre. C'est ce que j'ai un peu fait entre mes débuts, qui étaient vraiment très fantastiques, hein, ce que je peux écrire aujourd'hui, qui s'oriente plus vers le thriller. Mais c'est juste parce que j'ai envie au moment de faire des choses, je l'ai fait. Et effectivement, quand on a envie de passer à autre chose, même si c'est provisoire, ça me paraît évident. On ne peut pas se forcer. Hein, c'est tellement demandeur, en tout cas, encore une fois, en ce qui me concerne, la création, quelle qu'elle soit, puisque j'ai aussi fait partie de plusieurs groupes, hein, la création est tellement dévorante en termes d'énergie que si on n'a pas le feu, on ne peut pas le faire sortir. C'est pas, physiquement, pour moi, ce serait impossible.
Oui, tout à fait d'accord.
Oh, moi je suis d'accord encore, c'est la pire table ronde de ma vie, je crois qu'on est tout le monde. On a le droit, de la même façon, on a le droit d'être séché avec les gens, on a le droit d'être séché avec les livres évidemment aussi, puis de faire autre chose et d'être dans une autre musicalité, une autre vie, évidemment encore heureux.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça reste quand même dans la création, dans le besoin d'exprimer.
Et ça reste quand même dans l'imaginaire.
Dans dire,
le ballet que j'écris en ce moment, il est inspiré d'une nouvelle que j'ai écrite il y a 2 ans ou 3 ans.
Ça reste une histoire de toute façon, pas le ballet.
Oui, c'est de toute façon une histoire. Et je fais des ballets très narratifs avec des leitmotifs qui représentent les personnages avec leur changement d'état d'âme, etc. Je les suis exactement comme une histoire. C'est de la musique extrêmement descriptive et psychologiquement et aussi du monde extérieur.
C'est le même processus, c'est
tout à fait. Exactement.
Certains, comme je pense à Clive Barker notamment, qui fait partie des influences évidentes chez moi que j'ai passé tout à l'heure, qui aujourd'hui peint davantage qu'il écrit.
Mon ami Marc Petit a fait ça il y a peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Il y a un moment, il nous a dit, j'en ai assez d'écrire, j'ai plus envie d'écrire, je n'ai plus envie que de peindre. Et il a commencé à peindre.
Jean-Pierre, quelque chose à ajouter ?
Non, mais c'est vrai.
Tu chantes quand même.
Oui. Mais moi, je veux dire, j'ai toujours fait tout en même temps, en fait. C'est pas prétention que de le dire, mais j'ai toujours eu des centres de, non pas d'intérêt, en fait, mais des pulsions créatives très diverses. J'ai toujours dessiné, donc je continue à dessiner, je continue à peindre. J'écris parfois du fantastique, parfois de la science-fiction, parfois des choses qui s'approchent de la littérature générale. Comme Francis, j'écris des chansons que j'interprète, effectivement. Mais tout ça part de moi, quoi. Donc je ne fais pas la différence quand je crée. C'est l'envie du moment qui décide, est-ce que je vais écrire une toile, est-ce que je vais écrire un roman, une nouvelle, est-ce que je vais écrire une chanson. Donc voilà, c'est quelque chose qui sort de soi, et on ne peut pas l'arrêter, heureusement d'ailleurs.
Non, il faut suivre le flux.
Exactement.
Très bien. Quelque chose à ajouter ?
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Parce que Francis a une autre conférence et il a besoin de faire une pause café.
Voilà, un petit café entre les deux.
Arrêtez d'écrire si on ne veut pas qu'il arrête de parler. Il faut le laisser continuer. Ben, merci à tous, merci Anne, merci Cédric,
merci
Jean-Pierre, merci Francis. Vous pourrez les retrouver en dédicace dans la butte du livre, à part Francis qui est puni.
C'est le même ou on change le lieu ?
Non, c'est le même.
Et donc c'était la fantaisie que du bonheur, pas tout à fait vrai, sauf avec Twilight. Merci.